Histoire de France et d'ailleurs avec René-Joseph Irmana. Alors le sujet aujourd'hui, Guy de Maupassant, le génie et la folie.
Bonjour, donc aujourd'hui c'est un auteur ô combien célèbre, populaire, unanimement apprécié, et qui marque un peu je crois les vies, parce qu'on a souvent vu des épisodes, où, notamment à la télé, et puis bien sûr le plaisir c'est de lire. Il a écrit beaucoup de nouvelles ancrées dans le terroir, soit d'ailleurs terroir rural, soit Paris. Il y a des récits parisiens aussi. C'est des récits de la vie avec la psychologie, avec le sens, la sociologie de l'époque, etc. Et avec marqué quand même, je pense, par un pessimisme, un certain désespoir hein, au bout du compte. Et puis il fait partie de ces auteurs, ces artistes en général qui meurent jeunes. Il est mort à 42 ans, né en 1850, meurt en 1893. Il est mort suicidé, enfin il n'est pas suicidé, je dis une bêtise, il avait tenté de se suicider, il est mort absorbé par la folie, quoi, voilà. Une folie familiale, probablement, puisque son oncle maternel était mort fou aussi, et son frère, Hervé, était lui aussi interné et mort dans un asile. Voilà. Donc, il est né le 5 août 1850 à Fécamp, donc Normandie. Voilà. Et son père, c'est Gustave, donc Flaubert, et sa mère, Laure de Poitevin. Voilà. Alors, son père, il aurait été. Il a des titres, mais lui, c'est contesté. Aristocratique, qui a été remis en cause, et sa mère, c'était la haute bourgeoisie. Haute bourgeoisie. Alors, elle a connu, ainsi que le frère de celle-ci, Alfred, qui, on le sait, mourra fou, qui sont marqués par par la démence, et pas par sa vie, parce qu'il avait une vie quand même assez réglée, si je peux dire, quoique un peu débauchée sur les bords, mais. Une vie bien, par nature, sa psychologie était bien équilibrée, il avait même un côté roublard un peu dans la gestion de son œuvre. Et donc, il savait négocier avec les éditeurs, enfin, etc. Il avait les pieds sur la terre. C'était, disons, une neuropathologie liée à son ascendance. Hein, voilà. Mais c'est une vraie démence hein, à la fin. Donc, mais il a laissé une œuvre, je l'ai dit, abondante, superbe. Et multiface en quelque sorte. Et je citerai aussi Gérard Nerval, par exemple, qui l'a précédé, qui était au moment où naissait Nerval et mort en 1855. Et Gérard Nerval aussi s'était suicidé. C'était un poète, je ne sais pas si on peut parler des poètes maudits. Et Gérard Nerval, il y a un petit parallèle avec. Ils ne sont pas de la même génération, avec notre Guy de Maupassant. Gérard Nerval aussi était, disons, marqué. Ils avaient été internés, hospitalisés dans la fameuse clinique du docteur Blanche. Mais c'était une clinique, je pense, ce n'était pas un asile d'aliénés, comme on peut l'imaginer, notamment à l'époque, avec des barreaux, l'horreur. C'était une clinique pour personnalités huppées et beaucoup de grands personnages de l'époque qui auraient été accueillis. Donc il était très bien soigné, si on peut dire. C'était pas l'horreur, hein. C'était une clinique pour riches et pour voilà, personnalités, notamment du tout Paris. Voilà. Donc son père, je l'ai dit, c'est Gustave. Sa mère, c'est Laure Poitevin, ou de Poitevin, puisque la particule a été maintenue. Il s'était marié en 1846. Voilà. Il aura un seul frère, Hervé. Voilà. Et ses parents vont se séparer en 1862. Alors, il a des vacances. Il est sème, il y a Paris, et puis il y a la Normandie, Étretat. Il passe ses vacances à Étretat. Alors, il fait ses études Alors, le frère de son oncle, j'ai dit pour souligner cette ascendance malheureuse, est mort fou en 1848, le frère de sa mère, Laure. Et donc, il fait ses premières études au petit séminaire à Yvetot. Et là, il souffre de névralgie, là aussi faciale, avec un œil qui se bloque. Enfin, déjà, il y a des désordres nerveux qui apparaissent. Alors, là, il supporte mal l'aspect religieux, hein, du collège. C'est pas sa tasse de thé. Il se révolte. Enfin, il est contre. On verra qu'il est anticlérical. Et c'est un peu contradictoire. Il est anti-tout, un peu anti-bourgeois, anticlérical, anticolonial. Voilà. C'est un révolté, un peu perpétuel, quoi. Et donc, il change d'établissement. Le petit séminaire n'est pas fait pour lui. Il fréquente le lycée, lycée Corneille, donc à Rouen. Voilà. Et donc, là, il est possédé. Alors, il y a ses deux passions, l'écriture, dès sa prime jeunesse, son adolescence. Il noircit des pages, il écrit. Et le sexe aussi. Alors là, toute sa vie sera obsédée. À la fois, il y a peut-être du sentiment, mais c'est le sexe quand même. D'ailleurs, il avait été. On l'a dit, sa mère et son oncle, Laure et Alfred, étaient les amis de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert aussi, Rouen. On avait fait jadis une émission sur Flaubert. Son père était médecin-chef de l'Hôtel-Dieu, le père de Flaubert. Et donc, il est possible que, eh bien, ça a été une hypothèse. Que eh bien, Guy soit l'enfant adultérin du père de Gustave Flaubert. Hein, ouais. Ou de Gustave Flaubert, tout simplement, je veux dire. De Gustave Flaubert. Ouais. Ça a été une hypothèse. Et d'ailleurs, Flaubert sera très proche de la famille. Je ne dis pas de bêtises, il est le parrain de Guy. Et il l'appelle. Il dit, je l'aime comme mon fils. Hein. Il l'a suivi de près. Il l'a conseillé, guidé. Dans sa démarche, son parcours littéraire, il a été de très bons conseils, on va dire. Et Guy de Maupassant était aux obsèques de Gustave Flaubert, voilà, très ému. Donc, fait des rencontres, alors beaucoup de rencontres dans cette vie d'artiste, etc., notamment à Étretat, il aura une maison à Étretat. Hein. Alors, des personnalités aujourd'hui un peu oubliées, mais enfin, Alphonse Karr, des personnalités de l'époque, hein, le peintre Duzman, hein, qui est d'origine anglaise, voilà, etc. Alors, les Poitevin, alors, sa famille de sa mère, je pense que c'est des personnalités, une famille importante de la bourgeoisie, Villemessant, etc. Hein, et donc. Au début, il fait déjà 18 ans, il est, je l'ai dit, alors il rencontre aussi le poète anglais, Swinburne. Hein, Swinburne, voilà. Là aussi, il y a cet aspect sexuel, parce que Swinburne, je crois, était très féru du marquis de Sade, enfin, voilà. Hein, et donc, mais il y a toujours un côté désespéré au fond de lui. Hein, voilà. Alors il écrit par exemple des petites phrases. Guy écrit, la vie est le sillon du vaisseau qui s'éloigne. Donc je sais pas, il y a un côté justement attirance par la mort. Hein, voilà. Et donc voilà, ça c'est. On a évoqué cette hypothèse. Donc. À propos de Gustave Flaubert, mais quoi qu'il en soit, c'est son père spirituel. Voilà. C'est son père spirituel. Alors, il passe son bac au lycée, je l'ai dit, à Caen, et il s'inscrit en fac de droit à 20 ans, à Paris. Donc, oui, visiblement, il n'a pas la vocation, hein, du droit. En juillet 1870, il a, donc on le dit 20 ans, il est mobilisé, mais bon. C'est peut-être pas une planque, mais il est mobilisé, donc non pas sur le front. Il est dans l'intendance, hein, en Normandie, dans les services de l'armée. Voilà. Et donc, et là, il a une impression terrible. Il assiste en 1871 à l'exécution d'une femme, exécution sommaire, qui est qualifiée d'espionne, d'espionne d'espionne. Elle est abattue sommairement. En novembre 1871, il est démobilisé. Et alors là aussi, par ses relations, je pense, il entre au ministère de la Marine. Là, c'est dans la bureaucratie. Alors ensuite, 1875-1876, donc il est à Paris. Donc il est toujours très proche de Gustave Flaubert, mais il rencontre d'autres auteurs. Émile Zola, qui sont aussi ses amis, Alphonse Daudet, Turgenev, Edmond de Goncourt. Hein. Et donc, il entre aussi, il écrit, il donne des papiers au Gaulois. Hein. C'est un journal, hein, de l'époque, je pense, peut-être une tonalité satirique. Donc, et puis, il en a marre du ministère de la Marine, la bureaucratie, mais enfin, c'est quand même pour entrer dans un autre ministère, l'instruction publique. Et là, où il est attaché de cabinet du ministre, le ministre de l'époque, c'est Agénor Bardoux. Bardoux, on disait instruction publique, autrefois, aujourd'hui c'est éducation nationale, sur un plan tout à fait, je répète, anecdotique, c'est l'arrière-grand-père de Valéry Giscard d'Estaing. Hein. Bardoux, c'était un élu député du Puy-de-Dôme, de Clermont. Voilà. Donc, il passe une partie, notamment ses loisirs, à Étretat. Alors, il est quand même un peu désargenté. Quand il a quelques sous, il va à Étretat. Et quand il est un peu serré au niveau de la bourse, eh ben, c'est à Beson, sur les bords de Seine. Alors, il prend le train à la gare Saint-Lazare. Il descend en Courbevoie et ensuite il prend une diligence. Hein, voilà. Et donc, on a vu aussi toutes ces scènes de description. C'est la précision de la description. C'est sur les conseils, je l'ai dit, de Flaubert. Il a des descriptions précises. Un regard très, très attentif. Hein, et c'est de là, de cette précision, c'est descriptif, qui sortent l'imaginaire, les sentiments, voire le fantastique, hein, mais à partir d'un décor et de personnages bien posés, à partir du réel. Alors on cite les peintres qui, peut-être, c'est un peu comme, si on peut faire le parallèle avec les peintres tels que Courbet, Monet, voilà. C'est un peu le pendant de sa littérature, hein. C'est les scènes, les impressionnistes, hein, voilà. Donc il s'adonne. Alors c'est un aspect aussi de sa personnalité qui fait qu'on ne peut pas imaginer qu'il sombrera dans la folie, parce que sa vie est bien saine, enfin, même s'il est très débauché. D'ailleurs Flaubert l'appelle jeune homme lubrique, jeune homme, et c'est vrai. Mais ben, il pratique les sports nautiques, hein, sur la Seine. Il fait de la barque, ben, musclé, quoi. Il fait aussi du podoscaf. Alors je pense que c'est l'ancêtre du pédalo. Voilà. Il fait donc de la gymnastique, il fait des pompes, enfin, etc. Il fait partie de la société des canonniers. Donc là, c'est une société où il y a quand même, je pense, le sport, mais aussi beaucoup d'obscénité, hein, et qu'on appelle aussi la société des macros. Donc c'est très 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 cru, si on peut dire. Alors, il est à côté, dans son œuvre, il est misogyne, mais dans la vie, en réalité, ce qui fait qu'il n'est pas aimé des hommes, ses congénères masculins, il est très sec, cassant avec les hommes. Par contre, il est charmant, doux, il fait des rondes jambes, des courbettes aux femmes, quoi. Mais, je répète, dans la gente masculine, sauf ses amis, il a des amis hommes, mais en général, il n'est pas sympathique avec les hommes. Voilà. Donc, et là, il a quand même toujours cette attitude de distance, de mépris, il a un côté... je cherche le terme, il en veut un peu à tout le monde. Il parle de la moisissure de la société parisienne, en parlant de tout ce qui est aristocratie, etc. C'est une société où il évolue. Alors il est anticlérical, anti-militariste, anti-démocrate, ça paraît contradictoire, anticolonial. Alors, il y a ce qu'on appelle le groupe de Meudon. Je développe un tout petit peu. C'est justement un groupe d'artistes, d'écrivains qui se rassemblent à Meudon, donc sur les bords de la Seine. Donc, avec Zola, Huysmans, alors d'autres qui sont moins connus aujourd'hui, mais des grands littérateurs de l'époque. Léon Henrik, ou Henik, H-E-2-N-I-Q-U-E, Paul Alexis, Henri Séard, voilà. Et il y a ces soirées de Meudon, engagées vers 1880. Il y a une revue, je pense, la revue du groupe de Meudon, où chacun prête sa plume. Hein, voilà. Et donc, voilà. Et c'est, Maupassant, on est dans les membres actifs. Alors, une première œuvre qui va le porter carrément à la gloire, c'est Boule de Suif. C'est une. En fait, c'est ça, révélateur, mais c'est une nouvelle. Hein. Alors, Boule de Suif, ça évoque un peu la. C'est plutôt la prostitution, c'est un problème. Et c'est une prostituée, une jeune prostituée, on va dire, qui se sacrifie dans le cadre de l'occupation, en 1870-1871, l'occupation du pays. Elle est avec des bourgeois dans une diligence. Il y a des portraits très précis, notamment deux bonnes sœurs. Enfin, et alors, la diligence est bloquée dans une auberge parce que un officier prussien veut que, eh bien, Boule de Suif, la jeune fille, elle est un peu grasse, un peu, mais enfin, elle est très appétissante, et il veut la mettre dans son lit, quoi. Et donc, il bloque la diligence. La diligence ne repartira pas. Il fuit Paris, je pense. Ils vont vers l'ouest, justement. Donc, et si elle ne va pas dans son lit, elle est obligée, elle se sacrifie. Quoi, voilà. Et ensuite, pour que la diligence puisse repartir. Et ces bourgeois, pourtant bien pensants, au bout de 3 jours, bon, ils étaient impatients, ils la pressaient d'accepter. Hein, l'offre de l'officier prussien. Et après, quand elle a cédé, qu'elle s'est donnée, s'est sacrifiée, elle n'avait pas envie. Hein. Et donc, ils lui font témoigne sur la suite du trajet un mépris total. Hein. En plus, on l'a vu au début, ils n'avaient pas prévu, elle avait des provisions, enfin, elle les faisait partager, c'était la bonne fille. Et après, il l'entourait de tout son mépris. Voilà. Donc, c'est cet esprit de Maupassant. Il est anti-bourgeois, voilà. Mais il est déjà, on l'a vu, on le sait, il est un peu marqué par la folie, et puis il va y sombrer, la folie l'absorbe. Et on trouve là des personnalités, je citais Gérard Nerval, on peut évoquer aussi ces poètes fous ou romanciers, je pensais à Virginia Woolf, la romancière anglaise aussi, mais qui vivait... plus contemporaine, je crois que elle est morte dans les années 40, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était absorbée par la folie, une grande romancière, et donc elle s'était suicidée, hein, jetée dans un fleuve, une pierre au cou. Voilà. Virginia Woolf, elle fait partie, à 40 ans à peu près, de ces personnages génies et folie. Il a déjà un côté cyclotimique, voilà. Alors, soit il explose, il est d'un enthousiasme fou. Je ne sais pas si on peut parler de bipolaire. Enfin, je ne m'hasarderai pas à citer des aspects psychiatriques. Et puis, ça, des périodes d'effondrement. Voilà. Alors, il a quand même des périodes, là, à l'époque de travail, des intercalaires, où il donne, il produit. Alors, il y a la Maison Tellier, qui est là aussi une grande œuvre. Ça décrit un bordel de l'époque, la Maison Tellier. Il donne des articles dans des revues et journaux, Le Gaulois, Gilles Blas, Le Figaro. Et puis, il voyage dans le bassin méditerranéen, plutôt. Et peut-être pour échapper, peut-être, à cette absorption. Il sent ce. Il va avoir des visions. Là, il voit son double plus tard, dans son fantôme en face de lui. Enfin, voilà. Et il voyage donc. Il va acheter un voilier pour probablement échapper à cette obsession, à ce tourment, à cette nuit qui va l'absorber. Et donc, sa mère lui donne un petit terrain à Étretat, et là, il y fait construire sa maison. Alors, il y a des anecdotes, une petite anecdote. la maison, il l'a fait construire, il la baptise Maison Letellier. Alors c'est quand même son œuvre, ça évoque un bordel. Donc, et la voisine, sa voisine, qui s'appelle Hermine Lecomte Dunouy, hein, et donc, qui est aussi une. J'ai regardé un petit peu, je fais toujours des petites incursions sur Internet pour. Avec ses citations de personnages périphériques. Et donc là, elle proteste, ça la gêne qu'on donne ce nom à la maison voisine. Alors, ils font un arrangement, il va l'appeler la Guillotte, et en échange, elle deviendra sa maîtresse. Alors bon, c'est un accord, et ça se passe bien, quoi. Voilà. Alors, c'est un bon gestionnaire de son œuvre, hein. C'est un bon commerçant, là on dirait Auvergnat, là, mais un bon commerçant normand. Il est roublard, il sait négocier avec ses éditeurs. Alors ses éditeurs, c'est Havard, Havard, H-A-V-A-R-D, en France, et puis il en a un en Belgique, Kist Malkaes. Alors là, Kist Malkaes, c'est un éditeur belge, au Kist Makers, voilà. Donc, et là il lui donne plutôt des textes. C'est un éditeur qui produit beaucoup de littérature révolutionnaire, anarchiste, etc. Mais il se donne aussi à la marge à la littérature érotique, au sexe. Et donc Maupassant lui donne ses textes érotiques, voilà. Donc et initialement, alors autre. Les titres sont nombreux, hein, qui ont été donnés. On va vous en passer justement celui que je vais annoncer, Une vie, qui est en 1883 édité, un grand succès. Et Une vie, alors c'est une histoire très, je pense, d'une. On avait vu ça en film, hein, je me souviens. J'en ai mis de côté que j'avais lu, mais je me souviens plus vraiment du scénario, si on peut dire, de la trame. Mais enfin, là, c'est Jeanne, l'héroïne, c'est une. Une personnalité toute en douceur et qui se marie avec plein d'espoir, de rêve, et puis c'est la déception. Un mari qui la trompe, etc. Voilà. Et donc, la vie passera d'abord en feuilleton, comme c'était assez courant à l'époque, Jeune Sue, Georges Sand, enfin, beaucoup de. Voire Victor Hugo, etc. Leurs romans passaient souvent en feuilleton dans les journaux. Hein. Et suite au prochain numéro, avant d'être édité en volume. Et donc, Une vie, je répète, 1883, après une période feuilleton, passe d'éditer en volume, c'est un grand succès. Alors, il est anxieux, toujours anxieux, il doute de lui. Je l'ai dit, il fréquente les aristocrates à Paris et à Cannes. Alors là, il a un serviteur fidèle, mais qui ne pourra pas le sauver, François Tassard. Son valet de chambre, recruté en 1883, alors c'est le serviteur absolu. Il le suit partout. Hein. Il essaie de l'arrêter dans sa démence. Hein. Et François Tassard publiera ses souvenirs en 1911, hein, chez Albin Michel, de la vie donc de Maupassant. Et donc, Guy est critique envers tout le monde. Hein, voilà, à propos de l'aristocratie. Alors il conclut, je n'ai plus la phrase entière, mais quel crétin au pluriel, voilà. Donc, et il a une attirance sexuelle toutefois. Là on dit il n'est pas très romantique, c'est pas un romantique, hein. Donc ses textes sont plutôt intimistes, c'est des descriptions précises, je dis, il n'y a pas d'envolée lyrique comme les romantiques. Il aime les belles comtesses dans l'aristocratie, mais c'est une attirance purement sexuelle. Alors, il y a par exemple, mais là c'est une comtesse Potocka, née princesse Pignatelli, qui est l'épouse d'un diplomate attaché à l'ambassade d'Autriche. Donc, sa maîtresse parmi d'autres. Hein, et mais bon, ça reste quand même. C'est des périodes, c'est pas des histoires d'amour durable, je pense. Voilà. Et je répète, c'est surtout sexuel, il n'y a pas beaucoup de, peut-être, de sentiments. Donc, j'ai évoqué, mais je l'ai noté en marge, là, que le docteur Blanche, qui est un aliéniste, hein, et là, s'il va s'occuper de Guy, mais comme il s'était copé d'autres, il a une clinique assez huppée. Et donc, parmi les personnalités rencontrées, nombreuses, hein, beaucoup de rencontres, il y a Paul Bourget, qui était un romancier célèbre à l'époque, Melchior de Voguet, Charles Gros, le poète. Là, il a un échange épistolaire avec Marie Barishkov, ou Bashkitsev. Voilà. Donc, c'est une aristocrate russe, hein, comme son nom l'indique. Mais je crois que les courriers, les échanges de courriers sont publiés. Elle deviendra célèbre au titre posthume lorsque seront publiées ses lettres échangées avec Guy de Maupassant. Donc, elle habite Nice. Donc, mais le temps va très vite s'aigrir. Entre eux, voilà. Alors il est disciple du philosophe de Schopenhauer, c'est-à-dire c'est le pessimisme, la misogynie sur le dans son œuvre. Voilà. En 1884, alors par exemple, il se réinstalle, il fait un séjour notamment à la Guillette, on l'a vu, en Normandie. Là, je l'ai évoqué, c'est cette vie saine, équilibrée, il fait du sport. Il a un emploi du temps très réglé. Je l'ai noté, je donne un extrait de Caïfia, mais enfin, il se lève tôt. Voilà. Et en fin 1884, il publie il termine Bellamy. Alors, là aussi, c'est une œuvre célèbre. C'est un peu Bellamy, c'est l'histoire d'une ambition. D'un ambitieux sans morale et qui utilise justement les femmes pour réussir. Et qui finit ministre, Bellamy, mais sans scrupules. Hein. C'est un peu le Rastignac de Balzac. Hein, voilà. Et c'est un best-seller qui fait scandale. Voilà. Donc, il a aussi un pied-à-terre à Paris, près du parc Monceau. Alors, ça, je l'ai souligné, c'est une espèce de désespoir et de pessimisme caché, qui transparaît et qui finira une peste d'absorption par la mort. Voilà. Il arrive un jour, écrit-il, où derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on perçoit. Alors il fait des voyages, peut-être pour exorciser son mal, en Italie. Alors il n'aime pas Rome et Venise, c'est que parce que c'est des villes superbes, mais trop. Trop propre, trop belle à ses yeux, trop esthétique. Et il préfère Naples, qui est une ville plutôt pouilleuse, mais très vivante. Alors avec Paul Bourget, alors là il fréquente le bordel, quoi. Et il pratique, semble-t-il, le triolisme. Alors je pense qu'on parle de candalisme dans le vocabulaire de la sexologie ou de la psychologie. Alors le candalisme, j'avais évoqué ça, j'avais fait une émission sur le libertinage et j'avais évoqué dans le régent, hein, Philippe d'Orléans, qui pratiquait le candalisme. J'ai encore regardé hier, j'ai pas noté, c'est ça, à un mot près, une lettre près. Et donc c'est le contraire de la jalousie, c'est quand l'un des deux partenaires aime que ça, mettons l'homme, même que sa maîtresse, la voir, eh bien, pratiquer l'étreinte avec son amant, avec un autre amant, avec un autre homme. Et l'inverse, lorsque la maîtresse aime voir son amant avec une autre femme. Voilà. C'est ça le candolisme, c'est le contraire de la. Il pratique ça avec Paul Bourget, Camille Mendès, et parmi les participantes, on citera Gisèle Destock. C'est un nom qui paraît assez adéquat, D'Estoc, parmi d'autres. C'est une pratique, donc on dira le triolisme. Fin 1885, il est à Antibes. Là, il achète un bateau qu'il appellera le Bellamy. Donc, là, il publie. Alors, les œuvres sont nombreuses, notamment des nouvelles qui sont des petits romans très en nombre. Là, il est mort jeune, mais il a eu une vie, il a vécu 10 vies peut-être, hein. Il est mort à 43 ans, mais voilà. Et alors c'est une des contes, je pense, là c'est plutôt fantastique de Normandie, c'est assez sinistre, je pense. Il y a un côté aussi de fantôme, enfin voilà, assez effrayant. Une maîtresse, La plus, c'était des maîtresses épisodiques, je l'ai dit, là, il lie un lien durable, hein, assez durable, quelques années, avec Joséphine Litzelmann. Alors là, elle est une, c'est une femme modeste, elle est distributrice d'eau, enfin, ou vendeuse d'eau à Châtel-Guyon, ville de source, donc elle distribue des verres d'eau, quoi, aux curistes. Il aura quand même 3 enfants avec elle. Lucien en 1883, Lucienne en 1887 et Marthe Marguerite. Je ne sais plus sa date de naissance. Il ne les reconnaîtra jamais, toutefois. Hein. Jamais. Mais apparemment, notamment Lucien. Lucien deviendra employé de préfecture et il aura dans les années 1900, enfin, après 1900, puisqu'il est né en 1883, il ressemblera comme une goutte d'eau à notre Guy de Maupassant. Voilà. C'est à l'évidence, c'est ça, mais c'est un père naturel, il ne les reconnaît pas. Voilà. Donc, il est contre le mariage, mais bon, il est dégoûté aussi par l'aspect, tout ce qui est maternité. Le sexe l'intéresse, mais séparé de la procréation. Voilà. Il évolue aussi, il a ses entrées dans le monde de. Alors je pense que peut-être on va faire notre intermède. Je crois que c'est le moment, à peu près au mi-temps de notre émission. Alors c'est un film, ça a été mis en film adapté, plusieurs de ses romans ont été adaptés. Alors j'ai choisi Une vie que j'évoquais, qui était adaptée par, en 1958 par Alexandre Astruc, avec Marie Hachel et Christian Marquand. Et le titre du film, c'est également Une vie, c'est le titre éponyme. On se retrouve dans 2 minutes 52.
Tu attends quelque chose ? Je t'ai pas dit bonsoir.
Si.
Écoute. J'ai été un peu violent ce matin. Je ne voulais pas te faire de mal, tu sais, mais je me suis emporté. Quand je suis en colère, je dis n'importe quoi. Je te demande pardon. Sincèrement.
Tu m'as tellement fait peur.
C'est ta faute aussi, tu prends tout au tragique.
Tu m'as parlé comme un ennemi.
Mais non, seulement il fallait bien que j'arrive à te faire comprendre. Oh, rassure-toi, ce n'est pas seulement cette question d'argent. L'argent.
C'était pourtant si simple de m'en parler.
Hein, et tellement commode, hein. Qu'est-ce qui ne s'arrange pas avec un peu d'argent?
Je t'en supplie, ne redeviens pas méchant.
Méchant, moi? Ma pauvre petite jeune. J'ai seulement besoin d'être un peu seul. Un peu libre, tu comprends? J'ai besoin d'air, moi. Tiens, tu vois, comment veux-tu que je t'explique? Dès que j'ouvre la bouche, tu prends un air traqué. Allons, allons, calme-toi. Tout ça, ce sont des enfantillages. Des caprices de petites filles gâtées. Écoute. Nous pouvons être très heureux tous les deux. Crois-moi, très heureux. Seulement, il faut que tu mets du tien, toi aussi. Vivre ensemble, ça n'est pas toujours facile. Tu n'as plus 16 ans, tu comprends? Il est grand temps que tu deviennes raisonnable.
Mais je ne veux pas être raisonnable. Je t'aime, moi.
Mais je le sais que tu m'aimes. Et puis après? Mais oui, qu'est-ce que ça change? C'est tout de même pas une raison pour me gâcher la vie.
Tu ne penses pas ce que tu dis, Julien.
Moi, je n'ai jamais été aussi sincère.
Je te gâche la vie?
Oh, et puis tu m'agaces à ne pas vouloir comprendre.
Guy de Maupassant, le génie et la folie, c'est le thème aujourd'hui d'Histoire de France et d'ailleurs.
Donc, j'ai dit, il a eu des enfants naturels, mais non reconnus. Et il fréquente aussi les milieux de la finance, les mondanités. Donc, par exemple, il fréquente les salons de Rothschild, le banquier de Cohen d'Anvers, etc., Perrer, les frères Fould, c'est des banquiers célèbres du Second Empire, notamment. Voilà. Il fréquente aussi alors les salons de Marie Cannes, enfin c'est des salonnières de l'époque, hein, ces dames qui recevaient, comme au temps au XVIIe siècle sous Louis XIV, donc qui recevaient toutes les célébrités de l'époque, politiques, lettres, musiciens. Alors là, il rencontre Edmond Rostand, alors les peintres, Bonnat, Joseph Reynac. Joseph Reynac a vérifié, je crois qu'il a été impliqué dans le scandale financier de la Troisième République, hein, l'affaire Stavisky, etc. L'abbé Munier, alors c'est un abbé aussi, pas de cour, mais un abbé du monde, qui est un grand convertisseur, hein, voilà, devant l'Éternel. Geneviève Strauff, née Malvie, qui est la veuve de Georges Bizet. Il fréquente son salon également. Alors il y a une anecdote, parce qu'il est un peu naïf aussi, et je l'ai dit, il n'est pas aimé des hommes au sens des mâles. Il est très cassant avec eux, avec ses congénères, alors qu'il est très très doux, très gentil avec les femmes. Donc, sauf ses amis, il a des amis. Et alors là, il est victime d'une certaine naïveté avec ses congénères. Et donc, par exemple, on lui fait une farce, pas au mois d'avril, on lui dit que eh bien, une soirée, c'est un dîner rouge. C'est-à-dire, on y vient comme des peaux rouges, je pense, dans le salon de Madame Calon d'Anvers. Et donc, lui, il arrive, et il débouche sur une assemblée qui est tout à fait en frac et en cravate, enfin, ou queue de piche. Ben, donc, il débarque là, c'est un peu une mauvaise farce, quoi, dont il est victime. Une vengeance, un peu, peut-être, parce que... Voilà. Alors, le 8 juillet 1887, il monte dans un ballon, il est passager d'un ballon, la Orla, donc, du nom de son œuvre. Hein, voilà. Et donc, on sait qu'il y avait des ballons, notamment pendant la guerre 1870, pendant l'occupation de Paris, par exemple Gambetta pouvait sortir de Paris en ballon, là, les montgolfières, hein, et ils avaient des noms de célébrités de l'époque, hein, le Gambetta, le George Sand, etc. Donc il monte dans un ballon, là on est sous la Troisième République, qui porte le nom de son œuvre, la Orla. Alors là c'est un beau superbe paysage aérien. Le 8 juillet 1887, il survole la tour Eiffel. On sait qu'il était contre la tour Eiffel. On a fait une émission sur la tour Eiffel au mois de novembre. Il était il avait signé une pétition contre ce qu'il considérait comme un monument, une espèce d'araignée, un étron, quoi. Mais bon. Et avec d'autres personnalités comme Gounod, comme Copé, hein, le romancier, Sully Prudhomme, le comte de Lille. Et c'est lui qui avait dit, on l'avait trouvé dans un dîner, dans le restaurant de la tour Eiffel, au premier étage. Je croyais que vous étiez contre. Il dit, mais c'est d'ici, je ne la vois pas, d'ici. Voilà, c'est le seul endroit où je ne la vois pas. Donc là, il survole Lille, c'est des bons moments, des moments de grâce. Il survole Bruges, le beffroi de Bruges, Belgique, et puis il atterrit entre l'embouchure de la Meuse et de l'Escaut. Voilà. Apparemment, c'est une opération de pub, hein, voilà, déjà à l'époque. Il achète un nouveau voilier, Bellamy II, et il fait des petites croisières entre Cannes et Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez, il adore, citation toujours étrange, marqué par l'idée de la mort, journée délicieuse, écrit-il, où l'âme semble morte dans un corps bien vivant. Voilà. Alors il a toujours ses relations mondaines avec le haut du pavé, le duc de Chartres, fils de Louis-Philippe, la princesse Sagan, pas la romancière, la princesse, voilà, à l'époque, le petit roi du Mékong, enfin, etc. Aurélien Scholl, donc c'est des essayistes, romanciers, enfin, oubliés aujourd'hui. Alors il loue une maison à Triel, sur les bords de Seine, en 1889. Alors là, sa folie commence à se manifester de façon concrète. commence à le gagner. Il voit des araignées dans les lits. Alors, son fidèle François est auprès de lui, son valet, François Prissant. Et donc, il essaye de l'aider, il essaye de le surveiller. Et il dit à François, combien de fois t'ai-je dit de m'appeler monsieur le comte? Enfin, voilà. Le cerveau part en vrille. Et c'est les derniers. Alors, son frère Hervé, et lui aussi est sombre dans la folie. Et au moment où il est interné, le 13 novembre, il meurt le 13 novembre 1889. Et il rend son frère, il dit, c'est toi qui es le réfou de la famille. Voilà. Et il croit que c'est son frère qui l'a fait interner. Il y a cette interjection contre Guy, hein, d'Hervé. Voilà. Et c'est ça les dernières, la dernière fête à la Guillette, le dernier voyage en Algérie. Il inaugure un monument à Flaubert, à Rouen. Donc il participe, il dévoile la plaque. Et là, il devient agressif. Contre tous. Il en veut, y compris à ses amis, il en veut aux journalistes, il en veut aux politiques, etc. En mars 1891, dernière chronique au Figaro. Et alors, là, il fait un voyage en France aussi, avec le fidèle François qui l'accompagne. Petite phrase de lui, je laisse seulement parler mes livres. Mes livres, ces livres, ce sont ses descendants, en fait, c'est sa vie posthume. Et donc, là, il est saisi aussi par l'angoisse, la peur, voire la panique. C'est la mort, écrit-il, imminente, et je deviens fou. Il écrit ça en décembre 1891. Il souffre aussi de cette névropathie qui est familiale. Donc c'est vraiment le cerveau, c'est pas de la psychologie, c'est dans ses gènes, hein, son oncle, son frère, ouais. Et puis il souffre d'une syphilis nerveuse. Alors, je ne sais pas, la syphilis, c'est pas si, ça rend fou aussi, la syphilis. Alors, je ne sais pas, nerveuse, avoir la définition médicale, mais bon. Et donc il voit son fantôme en face de lui. Dans le miroir, il ne peut pas se regarder dans le miroir. Il fait plusieurs tentatives de suicide dans un chalet à Cannes, hein. Il a loué un chalet. Alors il essaye avec le revolver, mais le fidèle François a retiré les balles. Peut-être aurait-il mieux fait de les laisser, hein. Voilà. Il aurait terminé sa vie et en échappant à cette terrible fin. Il tente de se... avec un coup de papier. Alors je pense que les fenêtres doivent être bloquées. Il cherche à défoncer la fenêtre pour sauter. Je sais pas, du deuxième ou troisième étage. Donc ces trois tentatives de suicide, on appelle les infirmiers, je pense. Il est ligoté. Il est conduit. Et alors là, il y a une tentative. C'est le docteur Blanche, hein, je vous dis. C'est un aliéniste évolué. C'est pas... humaniste. On le conduit sur le quai pour qu'il voit son bateau. Il est entouré, bien sûr, pour essayer de faire une espèce d'électrochoc psychologique. Son bateau Bellamy, mais hélas, ça fonctionne pas. Il est parti déjà. Le 4 janvier donc 1892, cette tentative, échec. Il est hospitalisé à la clinique du docteur Blanche à Passy. Et il y restera de janvier 1892 jusqu'à sa mort le 6 juillet 1893 à 43 ans. Et je l'ai évoqué, Gérard Nerval était mort 40 ans plus tôt. Non, il n'était pas mort, Gérard Nerval, on fera sûrement une émission sur lui aussi. Gérard Nerval s'était suicidé, il avait fréquenté la clinique, mais Gérard Nerval s'était suicidé une nuit d'hiver, pendu à un réverbère dans une nuit de Paris. Voilà. Donc, sur l'œuvre, alors je vous peut-être quelques mots du groupe des soirées de Médan, qui sont un regroupement d'écrivains. Donc, il y avait Paul Alexis, Guy, enfin, peut-être certains oublient aujourd'hui, c'était ces soirées de Médan, qui était aussi une revue, je pense, un recueil de nouvelles, publié le 17 avril 1881. 1880, c'est l'éditeur Charpentier, qui réunit déjà 6 nouvelles, mais c'était un petit cénacle, en fait. Il y avait Émile Zola, Guy de Maupassant. Alors, Zola fera, à propos de la fin de... C'est Zola qui fera l'éloge funèbre de Guy de Maupassant. Un éloge funèbre très, très ému. Alors, Zola faisait partie, membre éminent du groupe de Melun, Médan. Jean-Claude Huysmans, Henri Guéhard, ou Céard, Léon Hennick, Paul Alexis. Voilà, c'était le courant, on parle de courant naturaliste. Et qui évoque là notamment la guerre de 1870. C'est une petite bande qui se réunit. Et c'est Zola qui avait acheté cette maison à Meudan, qui réunissait ses confrères, quelques auteurs de son entourage. Il y avait aussi Marius Roux, etc. Et donc on l'appelait le groupe, il est passé dans l'histoire de la littérature sous le nom de groupe de Meudan. Et ils établiront une collaboration durable au sein de ce recueil, voilà. Et ça évoque plutôt, ils évoquent le contexte de la guerre franco-allemande, voilà. Ils s'en inspirent dans leurs nouvelles, voilà. Donc alors l'œuvre de Maupassant, donc je l'ai dit, c'est le quotidien qui est décrit, le tragique du quotidien, hein. Il évoque aussi la Normandie, le peuple normand, dans beaucoup de détails. Il est influencé en ce sens par Flaubert, qui l'a incité. Flaubert l'a suivi de près entre 1873 et 1880. Père adoptif, ou enfin père spirituel, voire père, on ne sait, biologique, et qui l'a incité à ce souci du détail. Alors il y a eu Boule de Suif, la maison de Tellier, un bordel. Boule de Suif, j'ai évoqué un peu la nouvelle. Qui est donc relève aussi de l'expérience militaire, un peu, ça évoque son expérience. Il n'a pas été vraiment à l'armée, mais il a fait partie de. Alors c'est contesté ce qualificatif de naturaliste. Voilà. On parle aussi d'impressionnisme littéraire. J'ai parlé des impressionnistes peintres. Lui, c'est l'impressionnisme en littérature. Il s'agit de voir juste et d'extrapoler après. Donc parallèle. J'en ai parlé avec les peintres Courbet, Manet, etc. Et donc, c'est des traits légers dans la description. Pas d'emphase. C'est peut-être le contraire des romantiques. Mais les effets sont puissants de ce descriptif en petites touches. Et bien, voilà, c'est l'impression, l'effet psychologique est inversement proportionnel à la légèreté du texte. Voilà. C'est donc une œuvre absolue, avec des figures complètes qui sont décrites. Alors, il est inspiré aussi par Tourguenev, ou autre Flaubert. Hein, voilà. Alors, c'est des contes, des nouvelles, des romans, etc. Hein. Alors, pour il est plutôt misogyne, et la femme, pour lui, c'est le symbole du plaisir, de la volupté, hein, voilà, du désir. Il s'est quand même marqué, cette œuvre, et on l'a vu par sa vie, sa fin, enfin, par le pessimisme, par la déception, la volupté conduit à la désillusion. Donc, il est sceptique, hein, sur le. Il ne se fait pas d'illusion sur ce qu'est l'univers, sur la finitude, sur l'absurdité de tout. Le tout est farce, écrit-il. Triste, bête, voilà. Que ce soit dans tous les domaines qu'il a fréquenté, les bourgeois, les politiciens, les aristocrates, tout est néant, dit-il. Et il pense qu'il n'a jamais aimé, je n'ai jamais aimé, voilà. Et il a en face de lui ce double maléfique. C'est aussi, bien sûr, la solitude et l'angoisse. Mais néanmoins, eh bien, il est amoureux de la langue française. Et ses œuvres sont pleines de charme, d'attrait. On ne peut pas toujours désespérer. Je pense Alors, on en cite toujours là, c'est, je crois que c'est assez fantastique, mais c'est sinistre. Les contes de la Bécasse, là, c'est tout charmant. Il y a les récits de la vie parisienne, Une vie, Bel ami, etc. Donc, l'œuvre est très abondante. Bon, je peux peut-être en citer quelques-unes pour le, comment dire, notre chronologie. Donc, alors, là, au niveau de la. De, tout simplement. Pour avoir un petit répertoire sur ces étapes de sa vie, donc je récapitule. Il est en 1850, le 5 août à Fécamp, donc château de Grainville, Yoville, près du Havre. Son frère Hervé, né en 1856. En 1857, ses parents se sont séparés. Il est avec sa mère à Étretat. Ses parents se séparent d'ailleurs en 1863 seulement. Alors, liaison avec le poète anglais Swinburne, qui est aussi, je vous dis, un grand admirateur de Sade. Enfin, voilà. Alors, le lycée de Rouen, la mobilisation, mais près de Rouen, hein, dans l'intendance, ministère de la Marine, en 1872, comme bureaucrate. Alors, les amitiés des bords de Seine, le groupe de Melun, et puis les liaisons avec Zola, Edmond de Goncourt, voilà. Alors, il écrit dans diverses, on l'a vu, il donne ses papiers dans divers journaux et revues. Par exemple, là, il débute aussi, je ne l'ai pas cité, au Journal de la Nation, j'en ai parlé, le groupe de Médan, la rencontre avec l'auteur, c'est un auteur russe, Tourguéniev. Alors sa carrière aussi, suite de sa carrière au ministère de l'Instruction publique. Là, il est poursuivi, je n'ai pas parlé, un peu comme Flaubert d'ailleurs, ou Baudelaire, il est poursuivi par le parquet des Temples pour outrage aux mœurs, pour son poème Une fille. Alors Boule de Suif paraît en 1880, fait scandale aussi. Il fait un voyage en Corse. La maison Le Tellier, 1881, donc chronique d'un bordel. Hein. Et voyage en Algérie, alors Mademoiselle Fifi, Une vie. Hein. Là, c'est François Tassard, le fidèle d'entre les fidèles, mais qui ne pourra pas le sauver, mais qui sera auprès de lui pour le protéger. Le valet de chambre, hein. Ses séjours à Nice, à Étretat. Alors, d'autres œuvres, Au soleil, Clair de lune, Bel ami, là c'est le grand, le roman, l'histoire d'un Rastignac, en fait, d'un homme qui finit par devenir ministre en passant au lit des femmes, en déshonorant des femmes, des épouses de personnages importants, quoi. Alors, il voyage en Angleterre, là aussi, La petite roque. Monsieur Parent, on ne peut pas tout citer. Mon Auriol, la Orla célèbre. Pierre et Jean, c'est la jalousie entre deux frères. Une jalousie mortelle entre deux frères. L'Osier de Madame Husson, là il y a un film avec Fernandel. Fort comme la mort, voilà, là il est interné. Son frère meurt en 1889. 1890, Notre cœur, La vie errante. Donc là, ses troubles s'aggravent, il fait des cures successives, il rédige son testament, sa dernière chronique au Figaro, ses tentatives de suicide dont j'ai parlé à Cannes, interné à la clinique du docteur Blanche à Passy, et il meurt le 6 juillet 1893, et donc à 43 ans. Et il y aura cet hommage d'Émile Zola, cet hommage ému d'Émile Zola. Donc je pense qu'il reste encore à peu près 5 minutes. Donc, je parlais un petit peu à propos de. Ah ouais, on peut évoquer ici aussi Gustave Flaubert. On avait fait une émission sur Flaubert, qui était le mentor de Guy de Maupassant. Et je crois que d'ailleurs, j'ai évoqué l'arrière-grand-père de Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre de l'Instruction publique et qui avait permis à Guy d'entrer dans son cabinet, quoi. Là, il y a un grand-père. Donc, et je crois avoir entendu que le personnage n'était pas forcément très sympathique, je ne sais pas. Mais Valéry Giscard d'Estaing, je crois l'avoir entendu dans une interview, déclarer qu'il faisait des pauses dans son travail et pour s'aérer l'esprit, il lisait Guy de Maupassant. Il lisait des nouvelles de Guy de Maupassant. Voilà. Alors Flaubert, il est plus âgé, il est né en 1821, donc aussi à Rouen, et il meurt en 1881. Avec, enfin, il meurt plutôt le 8 mai 1880, Flaubert. Et donc, aussi, on ne revient pas sur sa vie, mais il a eu une influence, il a été le parrain, si on peut dire, en littérature. Et voilà. Alors, Gérard Nerval aussi, c'est un personnage aussi, c'est poète maudit peut-être. Gérard Nerval, lui aussi, il est d'une génération antérieure, il est né en 1808 et il meurt en 1855. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle, ça serait hasardeux de ma part avec Guy de Maupassant. Et donc Maupassant a 5 ans au moment du suicide de Nerval. Alors là, c'est la tragédie aussi. Il avait été hospitalisé aussi, je l'ai vu dans la clinique du docteur Blanche, mais qu'il y a eu d'autres personnalités célèbres. C'était presque tous ceux, les gens du tout Paris qui avaient des problèmes, ils étaient dans la clinique du docteur Blanche, qui était un aliéniste en rupture avec les techniques de l'époque. Voilà. Alors, j'ai sorti plusieurs bouquins, j'en ai lu plusieurs, ça se lit. Même ado, on peut lire ça, c'est pas de problème. Et c'est très facile. Alors, je vais mettre la conclusion. C'était une préface de Pierre et Jean. Je répète, l'hostilité, la jalousie entre deux frères. Hein. Et donc, je lis les derniers paragraphes de cette préface sur Guy de Maupassant. D'ailleurs, on le retrouve dans d'autres ouvrages, à l'identique. Hein. Là, je ne sais pas si c'est du plagiat. Et donc, voilà, ses démêlés avec son entourage se multiplient, c'est la fin, pour fuir le mal. Donc, il souffre d'un délire de la persécution. Alors, son frère est mort parce que il avait tenté d'étrangler sa femme. Hein. Voilà, son frère est mort fou. Et donc, atteint lui aussi du délire de la persécution, il souffre d'hallucinations et ses crises de cécité le désespèrent. On a vu qu'il y avait un œil qui était bloqué, une névralgie faciale. Alors, démêlé avec son entourage, il essaie d'échapper à son mal en voyageant. Le 1er janvier 1892, il tente de se suicider à Cannes, ramené ligoté à Paris. Le 6 janvier, interné dans la clinique du docteur Blanche, il s'y éteint. Le 6 juillet 1893, à 43 ans, les funérailles ont lieu au cimetière Montparnasse, en présence d'Émile Zola, qui prononce son éloge funèbre. Alors on le qualifie de naturaliste, d'impressionniste, et apparemment ça ne lui aurait pas plu. Il détestait les étiquettes et les écoles, et prétendait cyniquement n'écrire que pour de l'argent. Donc c'était bien sûr sûrement faux, mais il se déclarait ainsi. Voilà, très pragmatique. Donc il est dans la littérature, il a une place à part. Personne n'a su parvenir à sa perfection dans la description du tragique de la vie quotidienne. Il a eu pour aïeux, selon Émile Zola, Rabelais, Montaigne, Molière, La Fontaine, les forts et les clairs, ceux qui sont la lumière et la raison de notre littérature. Et son influence est grande en France, mais plus grande peut-être encore à l'étranger. Donc j'aurais peut-être pu juste là, cette scène émouvante où on essaye de le ramener à la vie, si on peut dire, lorsque il est pris, il est quand même ligoté, il est pour essayer de déclencher une espèce d'électrochoc psychologique. On le mène devant son bateau le 4 janvier 1892. Guy de Maupassant, un des hommes les plus fêtés de Paris, sombre dans la folie. Il vient d'essayer 3 fois de se suicider, on l'a ligoté. Quelqu'un a une idée, il lui faut un choc psychologique. Surpris un beau matin, les Canois voient s'avancer sur le quai des yachts un étrange groupe. Maupassant et ses médecins s'approchent du bel ami. Le superbe voilier qu'il a acheté, le deuxième voilier auquel Maupassant a donné le nom d'une de ses plus belles œuvres, le ciel bleu, l'air, la ligne pure de son bateau, semble d'abord le calmer. Son regard devient doux et tendre. Il contemple d'un œil mélancolique ce mât dressé vers le firmament. Chacun est suspendu à ses lèvres. Le miracle va-t-il se produire? Mais rien ne survient. Le passé sur l'eau et au bord de l'eau, sur la Seine ou sur la Méditerranée, s'est éloigné à jamais. Voilà. Il a basculé dans l'enfer de la folie. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis. Thank you.